Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nous sommes tous les trois, Olivier, Evelyne et moi-même John, pour cette troisième émission avec vous. Alors Evelyne, quelles sont donc les nouvelles ?
Eh bien, ce sont trois nouvelles tirées du dernier numéro de la revue Les Refusés que nous allons vous proposer. La première s'intitule Le Double, c'est de Jeanne Desaubry, que nous vous avons déjà présentée dans la première émission.
Combien tu m'en donnes ?
La somme proposée tira un sursaut au vendeur. Il lui en fallait deux fois autant. Au moins, il tenta de négocier.
Le double, t'es pas bien, ça vaut rien.
Ah bah, c'est ce qu'il me faut, hein. C'est ce que ça vaut.
Ouais, sauf que ça vaut rien. Même pas ce que je t'en offre. Il faudrait qu'on m'en demande pour que ça vaille quelque chose, mais... Ramène-moi des conserves, tiens, des piles, du pétrole à lampe, des trucs avec une vraie valeur.
Le fourgue tapait du poing sur le comptoir. Maître chez lui, non mais. Le blanc, au visage tanné de fatigue, remballa sa poignée de perles dans un tissu doux, les empocha et tourna le dos vers la porte. Djibril soupira.
« Je peux accepter un effort, mais pas le double. T'es ouf, toi. »«
Bah, combien ?»
Voûté, Dmitri repartit vers les rues sombres de la ville. Les perles de la grand-mère... Elle ne manquerait à personne. Ce qu'il en avait obtenu n'était pas suffisant pour le traitement. Peut-être que le vendeur de pilules accepterait de lui donner la première partie des boîtes et lui mettrait les autres de côté, le temps qu'il trouve quelque chose à échanger. Au coin de la rue, là-bas, ils étaient plusieurs, ombre sur le noir, rassemblés autour d'un canapé éventré. Juste en dehors d'un cône de lumière dispensé par un lampadaire penché. Une silhouette s'appuyait avec une fausse nonchalance contre le fût tordu. Il fallait passer en traînant les pieds, l'air accablé, ne pas serrer à s'en faire mal la maigre poignée de billets.
Yo, tu cherches quelque chose, man ? On a tout ce qu'il te faut !
Une dénégation lasse, tête même pas levée.
Alors casse-toi, t'as rien à faire dans le quartier. Et tu viendras pas chez Djibril des fois. T'as du matos et il t'a filé du blé.
Hausser les épaules, l'air morne, surtout ne pas montrer sa peur.
Hein ?
Casse-toi, loser.
Au coin suivant, tourner et s'effondrer contre le mur un instant, le temps de laisser son cœur se calmer, puis repartir rapidement. Au bout du long chemin jusqu'à son quartier, dans l'obscurité de plus en plus épaisse, une vague lueur, comme une falaine s'en approchait, regardait au travers des barreaux. Le vigile en armes s'approche, entr'ouvre le battant vitré, laissant prudemment la grille fermée.
« Vous venez acheter ?»
Hochement de tête affirmatif. L'homme sort d'une poche le papier rédigé par le médecin, de l'autre la poignée de billets fripés. Le vigile entr'ouvre la grille, se recule, arme levée, lui fait signe du bout du canon, le fait entrer, referme rapidement dans son dos.
« Alors posez tout ça dans le guichet tournant. Le pharmacien va vérifier. Si tout est OK, vous ressortirez, on y vous livrera. Et on vous livrera à l'extérieur par la petite trappe, là. Vous êtes seul ?» C'est une embrouille, on boucle tout et on garde les boîtes. Hein.
Du haut-parleur, accroché dans un coin de plafond du sas miteux, une voix grésillante s'éleva si soudainement que l'acheteur ne put retenir un sursaut de peur.
« Reprenez l'ordonnance et l'argent, il n'y a pas assez !»
Dmitri renonça assez vite à la négociation. Seul un silence électrique lui répondait, et le vigile lui indiquait la porte avec le flingue à la vilaine gueule d'un noir mat. Au carrefour suivant, deux gamins se faisaient des passes avec une vieille boîte de conserve qui grinçait en raclant le goudron fissuré. Deux gamins, 10-12 ans, sales mais pas trop, misérables mais sans excès, plutôt même bien chaussés et bien vêtus par les temps qui couraient. Un rouquin, maigre, tout en genoux, et un métis rablé, La plupart des voitures garées n'étaient qu'épaves. Et les portières ou les capots encaissaient les passes maladroites avec des schlangs sonores. Dmitri passa son chemin en évitant de se trouver sur le trajet d'un tir au but maladroit, mais ne fut pas tout à fait assez rapide, ni assez vigilant. Le rouquin se retourna vers lui et avec une grimace qui vieillissait ses traits, lui colla un couteau sous le nez sans prononcer un mot. L'autre, déjà derrière lui, le déstabilisa d'un tacle vicieux qui le mit par terre. Ils le fouillèrent rapidement. Ni Dmitri, ni les gamins ne prononcèrent un seul mot. Le piège était grossier, tendu près d'une pharmacie officielle. Des poches de ceux qui en sortaient, les voyous savaient trouver soit de l'argent, soit des médicaments. Les deux, les jours fastes. Le coup de savate que Dmitri reçut dans le dos lui tira un grognement de douleur non fin. Les deux gamins s'enfuirent et la rue résonna du bruit de leurs pas qui claquaient. Dmitri se releva en soufflant, se tenant les côtes. Les gamins, inexpérimentés, n'avaient pas vérifié la doublure de son blouson. La femme de Dmitri y avait aménagé une petite poche au sein du col, quand il avait renoncé à celle dont il se servait un temps à l'intérieur de sa chaussure. Celle-ci était si usée aujourd'hui que les semelles ne tenaient que grâce à du scotch. En haut de l'escalier grisâtre, aux ampoules anémiques, Dmitri poussa silencieusement la porte. Devant la fenêtre obturée, plus ou moins efficacement avec du carton, Neila berçait le corps de leur enfant. Le front du bébé luisait de fièvre. Ses membres flasques pendaient. Et les larmes coulaient sur les joues de la mère. Il ne fallut qu'un regard à la femme pour comprendre que son homme ne ramenait pas le paracétamol, devenu aussi rare que des poches de sang.
Je n'ai pas eu assez. Il m'aurait fallu le double. If I were afraid, I could hide. If I go insane, please don't put your wires in my brain. Thank you.
If I were a good man, I'd talk with you more often than I do.
Quelles sont les nouvelles sur RCN?
Après If des Pink Floyd, voici Le Collier du Roi, une nouvelle écrite et lue par notre ami John Bullitt et que vous pourrez également retrouver dans notre numéro 24.
Il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Évidemment, je ne suis qu'un petit noble de province recruté depuis peu. Je n'ai pas voix au chapitre. Allez, les vieux comtes d'Albret ou de Picardie n'ont que faire d'un jeune sans expérience. Même s'il est un des favoris de la reine et pourtant... Cela semble évident. Cela semble évident qu'un désastre s'offre à nous d'ici quelques minutes. Le sol est glaiseux à souhait, gorgé d'eau de pluie qui est tombée durant toute la nuit, me rappelant mon Poitou natal. Un bourbier. C'est ce qui est devant nous, entre nous. Juste là, devant notre armée, ce sont les 6000 soldats anglais, recroquevillés sur leur pré légèrement surélevé, donc au sec, et nous en face, pour le moment, qui sommes encore au sec, devant le bourbier humide. Jamais nous ne pourrons traverser cet espace avec nos lourds chevaux carapassonnés et nos pesantes armures de métal. Grisés par la fête d'hier soir où le vin rouge coulait à flot, où ils ont fait force ripaille, trop confiants, Charles d'Orléans et ses lieutenants ne comptent faire qu'une bouchée de cette piétaille anglaise, ainsi que du roi Henri V. Aussi vont-ils donner le signal de l'attaque. Ah, Azincourt, un joli nom de village. En ce matin du vendredi 25 octobre 1415, il pleut sur l'Artois. Je suis trempé de la tête aux pieds, ma reine, et pense à vous. Ces quelques milliers de soldats anglais, affamés et atteints de dysenterie, ne songeant qu'à rentrer chez eux, sont là à quelques pas. Leur campagne d'envahissement de la France est pour l'instant un échec. Enfin, pour l'instant... Ils se retrouvent pris au piège par nous autres, les Français, venus à leur rencontre en surnombre. Nous sommes plus de 25 000. Toute la fine fleur de la cavalerie est là, face à leurs archers et soldats, recrutés dans les tavernes et les bouges de Londres pour 2 shillings par jour. Mais mes espions m'ont certifié que cette poignée d'archers anglais serait par contre très habile et bien entraînée. De surcroît, je constate aussi malheureusement qu'ils sont bien situés stratégiquement sur leur but. Je pressens que la partie va mal se passer. Mais sire, par pitié, ne lancez pas l'assaut ce matin. Attendez demain, où le sol sera plus sec, et nous n'en ferons qu'une bouchée, je vous en conjure.
Hola, jeune arbrisseau, qui es-tu pour donner des conseils à nous autres et au roi ? Alors que moi, le connétable Jean de la Mangeoire du Limousin, a ses préférences et le conseil. Tiens-toi quoi, tout favori que tu es, sinon c'est d'abord ton sang que je pourrais faire couler avant celui de ces Anglais de Mailleur.
Mais sire connétable, il a plu toute la nuit, le sol est détrempé, nos arbalètes n'ont pas été mises au sec, ce qui les rend inopérantes. Mes espions m'ont fait dire que c'est pas le cas pour les 5000 archers en face qui ont soigneusement mis à l'abri leurs arcs.
Foutaise que tout cela, jeune homme. Nous sommes 25 000 et nous allons les étriper d'ici quelques instants. Assez discuté, que l'on fasse avancer les hommes.
Alors qu'une pluie drue, interminable, continue de tomber sur le terrain, transformée en marécage, les Français s'avancent, encombrés par leurs lourdes armures, leurs forêts d'oriflammes et leurs arbalètes pesantes, dont la mécanique va se gripper sous la pluie. Le désastre français le plus sanglant de l'époque s'apprête à se jouer. Et moi, Jean du Poitou, je n'y peux déjà plus rien. Oh, ma reine, si tu étais là, douce et subtile, tu saurais les convaincre de renoncer à leur folie. Ta voix suave parviendrait aux oreilles de notre bon roi, lui ferait entendre raison. Mais je le sais, c'est une affaire d'homme et non de poète, comme je me le prétends. Le bel amour ne peut rien contre la barbarie et se retrouve démuni devant tant de violences inutiles. Lorsque nous voguions tous deux vers Citerre, souvent fois dans mes bras vous déploriez la sottise humaine. Mais aujourd'hui, je suis loin de vous et désespéré. Priez pour nous, gentes dames, car c'est la grande folie.
7 heures du matin, la cavalerie française s'avance lentement vers l'ennemi. Un vent mauvais s'est levé, contraire à nous, et qui va encore plus porter les flèches des archers adverses, contrairement aux nôtres. La pluie est ininterrompue, froide, glaciale et pénétrante. En avant la cave !» La flèche anglaise vint soudainement se loger juste dans la bouche du connétable, dont la visière avait été imprudemment relevée pour mieux se faire entendre. Il tomba dans les premiers sous une nuée de flèches, obscurcissant les cieux sans discontinuer pendant plus de 2 heures. Ensuite, ce fut l'hécatombe, car les hommes, ne sachant que faire, continuèrent à avancer, puis tombèrent dans le piège de la glaise, s'immobilisèrent les uns après les autres, se gênant, se bousculant, pendant qu'un nuage de flèches continuait à s'abattre sur eux et les décimait un par un. Les chevaux entraînèrent dans leur chute les redoutables chevaliers français, protégés par leurs armures de 40 kilos, mais qui restèrent coincés par ceux-ci, immobilisés et sans défense. Ils furent saignés ensuite, sur place, par les couteaux fins et aiguisés des soldats anglais. Ce que j'avais prévu, hélas, se réalisait sous mes yeux. À l'abri du haut de mon monticule, tandis que tous s'étripaient en bas, j'apercevais toute notre cavalerie immobilisée dans ce marécage, se faire massacrer lentement, mais sûrement. Le sang qui gicle ruisselle des armures en un torrent rougeoyant, la terre qui se teinte de rouge, la pluie qui tombe toujours, celle du ciel mais aussi la pluie de flèches qui transperce les derniers soldats, leurs cris, l'agonie, la boue, les râles et les hurlements des blessés, achevés consciencieusement, un par un. Les chevaux prisonniers touchés eux aussi, hennissent, se débattent, agitent une ultime fois leurs membres percés de flèches dans la glaise. Enfin, ce sont les derniers gémissements des quelques soldats touchés, mais respirant encore, puis plus rien, le silence. Seul résonne encore la pluie froide et glaciale, son bruit régulier sur la terre et contre la multitude d'armures de métal, désormais immobiles, dans le petit matin blême. En 3 heures, la chevalerie française a disparu, et les rares survivants seront emmenés à Londres par les hommes d'Henri V. Un désastre et une hécatombe marraine. Mais moi, ma belle amie, qu'en est-il advenu de votre précieuse personne, me direz-vous? Eh bien, j'ai fui. Oui, j'ai fui tout d'abord comme un lâche. Je me suis réfugié dans le petit village de Maisoncelles, proche d'Azincourt, avec une vingtaine d'autres personnes, dont le roi lui-même. Dans une grange, nous échangeâmes nos tenues de nobles contre celles de gentils paysans complaisants et nous maquillèrent tous debout le visage. En sortant, le roi laissa tomber par inadvertance son collier royal, que je ramassai vivement et mis dans ma poche pour lui restituer plus tard. Mais les troupes anglaises ratissèrent les maisons, eurent au fait de nous retrouver tous les 20. Rassemblés devant l'église, nous fûmes sommés de dénoncer le roi, méconnaissable sous ses habits de paysans. À chaque refus de dénonciation par nous, les proches du roi, ceux-ci étaient abattus, et leurs gorges tranchées immédiatement par les poignards des soldats. Quand ils s'approchèrent du 7e pour lui poser toujours la même question, « Who is the king ?» C'était moi, le dernier, qui se trouvait avant le roi. Je pouvais lire la terreur dans ses yeux. J'ai pensé à vous, ma douce amie, à la prairie rouge de sang à quelques lieues d'ici, à la mort de toute la chevalerie française dans ce bourbier, au petit matin frileux, serré l'un contre l'autre, aux oiseaux que nous écoutions siffler ensemble dans les bois. Autrefois, c'en était terminé. Alors, j'ai fait un pas en avant et j'ai dit « I am the king !» Comme preuve, je sortis de ma poche le collier royal de l'ordre de la toison d'or et je le mis à mon cou. Il n'y eut personne pour me contredire. Je fus immédiatement emmené sans ménagement par les soldats d'Henri V. En quelques instants, j'étais devenu le roi de France, son remplaçant, son double. Par héroïsme ou inconscience, aujourd'hui encore je ne le sais toujours pas. Jetant un dernier regard en arrière, je vis que les autres étaient emmenés dans la grange où nous étions changés.
Ils étaient rassemblés, la honte sur le visage et dans leur cœur, mais en vie. De fait, j'appris plus tard qu'ils avaient été ensuite tous massacrés, du premier jusqu'au dernier, et que la grange avait elle aussi été brûlée. Croyant les sauver, je n'avais sauvé que moi-même. Les astres en avaient décidé ainsi. À présent, ma bien-aimée, durant ma captivité pour ne pas sombrer dans la mélancolie et les regrets, je vais écrire chaque jour moult poèmes, écrits, fabliaux, en pensant à vous. Si tout le monde pensera que Charles d'Orléans est maintenant devenu poète, nous seuls saurons la vérité. Ce sera notre secret d'amour. Je vous envoie cette missive par un ami sûr du fond de ma geôle dorée de Londres, en espérant qu'elle vous parviendra. Mais ne pourrez plus jamais vous revoir, ma douce amie. Azincourt fut un désastre pour notre armée, mais le sera aussi à présent pour notre amour. Adieu, ma belle reine. Adieu, votre Jean du Poitou qui vous aimera toujours.
Nous venons d'écouter « Quando voglio », interprété par Patricia Petitbon, extrait de l'album « Rosso ». À présent, pour terminer cette émission, voici une troisième nouvelle qui, comme les deux précédentes, traite du thème du double. Elle s'appelle « La dernière journée » de Léon-Paul Piet et nous la devons à Olivier Thirion, qui va prêter sa voix à son personnage.
« La dernière journée de... » Vie de Léon-Paul Piet fut une vraie journée de merde. La veille au soir, ils avaient fêté leur anniversaire de mariage. Ils avaient pas mal bu et fumé plus de pétards que de raison. Après avoir fait l'amour, alors qu'il s'endormait, il avait entendu sa femme murmurer
« Louis, tu m'as fait jouir comme jamais.
Bah, » Cela aurait dû le réjouir. Le seul problème, c'est qu'il s'appelait pas Louis, mais Léon-Paul. Il passa une partie de la nuit à chercher les Louis de leur entourage, fort peu nombreux au demeurant, sans parvenir à identifier un éventuel coupable. Au matin, il s'endormit en accordant le bénéfice du doute à sa compagne. Peut-être avait-il mal entendu. Néanmoins, au réveil, un malaise persistait. Il était en retard, sa femme était déjà partie, légèrement stone, dans du coton, cool, léger, mais avec une prescience que cela n'allait pas durer, il se prépara le plus vite qu'il put. Alors qu'il sortait de chez lui, il tomba nez à nez avec la factrice.
« Une lettre commandée pour Monsieur Piet Louis. »«
Je ne m'appelle pas Louis, je m'appelle Léon-Paul. »«
Le nom et l'adresse sont bonnes, ça me suffit. Vous la prenez ?
Il ouvrit l'enveloppe dès qu'il arriva au bureau. C'était une mise en demeure de l'administration fiscale. Il devait payer une amende astronomique au prétexte d'une fausse déclaration datant de plusieurs années.
C'est du délire.
Il téléphona au numéro indiqué sur la lettre commandée. Une voix féminine des plus déterminées lui expliqua qu'il n'existait pas de contribuable portant le nom de Léon-Paul Piette à l'adresse indiquée. Seulement un Louis Piette. Puis, ne lui laissant pas le temps de poser la moindre question, elle lui raccrocha au nez. Il s'abîmait dans un océan de perplexité quand la porte de son bureau s'ouvrit à la volée.
« Eh bien, Piette, t'en fais une gueule !»
Son patron et meilleur ami, le commandant Devaux, le regardait avec compassion et inquiétude.
« On dirait que tu as rencontré un mort. »
Il lui expliqua l'histoire de la lettre et la confusion de noms en omettant d'en raconter la partie la plus intime.
« Elle est pas mauvaise, celle-là, tu sais. Rien ne m'étonne de l'administration. Oh, sans doute un bug informatique, deux dossiers qui se mélangent. Ça arrive tout le temps, ce genre de truc. Je te promets de me renseigner. On va régler ça vite fait. Mais bon, demain, parce que là, on a une urgence. Un ministre qui débarque à la préfecture ce matin. 2 heures de préavis, alors au boulot. La bonne nouvelle, c'est que tu pourras régler ton problème d'impôt en direct. C'est le ministre des Finances qui débarque.
Une visite ministérielle dans une petite ville de province s'apparente à un ouragan de force 5 dans sa version administrative. Mobilisation de l'ensemble des forces de police. Rappel des collègues au repos, abandon du suivi des affaires en cours, surveillance accrue des mouvements d'opposition, fouille et sécurisation des lieux visités, dégagement des voitures en stationnement sur le parcours du ministre, blocage de la circulation et j'en passe. Le capitaine de police judiciaire, Léon-Paul Piette, oublia vite sa mésaventure du matin. Il s'agita dans tous les sens toute la journée sous une pluie continue parsemée d'orages et de coups de vent violents. C'est donc avec un immense soupir de soulagement qu'il regarda s'envoler l'hélicoptère ministériel après une journée plutôt bien remplie. C'est alors qu'il rentrait chez lui qu'il reçut l'appel. Normalement, il n'était pas tenu d'y répondre, son service étant terminé, mais l'adresse indiquée étant sur la route de retour vers sa petite maison située en banlieue, il répondit que, d'un laconique, « Je prends ». Le dispatcher lui donna le peu de renseignements qu'il possédait. Une personne avait été témoin d'une agression et avait appelé la police. Elle parlait d'un cadavre. Le temps d'atteindre l'adresse indiquée, l'orage avait redoublé d'intensité. La rue se terminait en cul-de-sac et un chemin de terre la prolongeait. Un éclair lui permit d'apercevoir un petit immeuble à une centaine de mètres. C'était une bâtisse de 2 étages construite sans grand souci d'esthétique dans un no man's land attendant un improbable développement urbain. Il se gara le plus près possible de la maison. Il fut trempé dès qu'il mit un pied hors du véhicule. La porte était fermée. Sur le côté, une petite caméra surplombait la sonnette et un interphone. Il enfonça le seul bouton en fixant la petite caméra qui surplombait le tout.
« Qu'est-ce que c'est ?»«
La police, madame. »«
Bah, c'est pas trop tôt. »
Une simple ampoule, répandant une lumière jaunâtre sur les murs à la blancheur douteuse, éclaira soudain l'entrée. Un cri d'effroi retentit de l'autre côté de la porte.
« Non ! Au secours ! Louis, espèce de salopard ! Tu reviens pour me tuer ! » !»«
Mais calmez-vous, madame !»«
J'ai appelé les flics, ils arrivent !»«
Mais je viens vous dire que j'étais de la police !»«
Policier, mon cul ! Je te reconnais parfaitement, c'est toi qui as tué ce pauvre gars tout à l'heure. Casse-toi, fumier !»
Il entendit la femme crier dans son téléphone.
« Allô ? La police ! Le tueur, il est là ! Il veut pénétrer dans la maison !» Il se fait passer pour un de vos collègues, mais je le reconnais. Il est venu pour me tuer.
Au même moment, le portable du policier vibra.
Le témoin est en train de nous appeler. Où êtes-vous ?
Devant la porte, elle refuse de m'ouvrir. Elle me prend pour le tueur. La vieille continuait de gueuler dans un état de panique redoublé.
Avant de mourir, il répétait ton nom. Louis m'a tué. Il l'a répété 3 fois. Je te préviens que j'ai le fusil de chasse de feu, mon mari. Dieu ait son âme à ce connard, et que je vais te trouer la peau, espèce de saloperie d'assassin.
Madame, je suis le capitaine Léon-Paul Piette de la police judiciaire. Je vais m'approcher et vous allez m'ouvrir.
Pauvre Piette, mon cul. Je ne le répéterai pas, Louise. Si tu t'approches, je tire.
Soudain, il y eut un déclic et la porte s'ouvrit. Le personnage qui occupait tout l'espace était pour le moins impressionnant. Le teint plus pâle que la mère de Dracula en route vers sa tombe, mais relevé par un maquillage hors norme, une épaisse chevelure rousse, une robe de chambre rose tentant, sans grande réussite, de retenir deux seins dont chacun était plus imposant que le dôme de Saint-Pierre à Rome. Des chaussons en forme de canard apportant une touche rurale à l'ensemble. On aurait dit une matrone sortie d'un film de Fellini. Elle pointait un énorme fusil de chasse sur l'homme qu'elle prenait pour un assassin. Celui-ci ne put retenir un sourire.
Et en plus, tu te fous de ma gueule.
Avant qu'il ait pu répondre ou faire le moindre geste, une volée de plomb effaça son sourire et le propulsa plusieurs mètres en arrière où il s'effondra.
Je t'avais prévenu, Louis.
Avant de mourir, il réussit à articuler. Mon prénom, c'est pas Louis, c'est Léon Paul.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
N'oubliez pas aussi que vous pouvez également nous retrouver quand vous le voulez sur le podcast de l'émission « Quelles sont les nouvelles ?» sur le site de RCN 90.7. Alors, au revoir à tous.
Au revoir.